Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast, on va parler des conditions de travail des petites mains qui font marcher les applications. Invisibles, les travailleurs du clic, c'est le titre d'une enquête, un documentaire en 4 épisodes, produit par Story Circus et diffusé sur France TV/YouTube et Peertube, qui nous présente des employés d'Uber, Facebook ou encore Apple. Pas ceux qui conçoivent et développent ces outils, non, ceux qui font que l'on obtient une réponse précise à une requête Google, que l'on se fait livrer un plat chaud à la maison au milieu de la nuit ou qu'on obtient rapidement une explication à une question posée sur Facebook ou Twitter. J'ai le plaisir d'accueillir les deux auteurs d'Invisible, les travailleurs du clic. Bonjour Henri Poulain.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur d'Invisible, les travailleurs du clic. Julien Goetz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc un des deux co-auteurs de ce documentaire, également acteur, parfois réalisateur, et tous les deux avaient notamment travaillé sur Datagueule. On y revient. Messieurs, je viens de poser un petit peu le décor du sujet dont on va prendre le temps de parler ensemble. Première question, pourquoi Invisible ?
Alors le titre, en fait, il est apparu en cours de tournage et il s'est imposé puisque tous ceux que nous filmions, qui avaient accepté assez difficilement, l'enquête a été longue, hein, on a essuyé beaucoup de refus. Et ce qui est apparu, c'est que ces gens-là, qu'ils soient d'ailleurs évidemment derrière, invisibilisés par nos écrans ou même dans la rue, étaient contraints finalement et s'auto-contraignaient à ne pas à révéler leur présence. Mais surtout étaient contraints par des règles imposées par les multinationales qui les embauchaient. Donc cette invisibilité, elle permettait aux entreprises qui les employaient de les exploiter et en même temps permettait au grand public d'ignorer ce problème qu'on était en train de tenter de révéler.
Julien ?
Ça découle aussi directement des travaux d'Antonio Casilli, sociologue, qui a donc écrit « En attendant les robots » et dont est tirée cette série documentaire qui a travaillé avec nous et qui raconte très très bien que, en fait, notamment dans toute cette industrie des nouvelles technologies, la technologie a pour effet de toujours rendre invisibles les gens qui sont derrière. C'est-à-dire que quand on commande un Uber, on parle pas directement à son chauffeur, on parle à son application Uber. Quand on commande à manger sur Deliveroo ou Uber Eats, on parle à son application, pas à la personne qui vient nous apporter à manger. Ce qui n'a rien à voir, par exemple, quand on fait l'expérience de héler un taxi dans la rue, parce que, en fait, la couche technologique de l'application a effacé l'humain qui produit le travail. Donc, c'est aussi en référence à ça. Ils sont vraiment invisibilisés par les processus internes aux industries dans lesquelles ils travaillent.
C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité quand on voit toutes les données qui sont traitées et aussi la masse d'employés qui bossent pour ces boîtes ou plutôt pas directement pour ces marques parfois, mais pour des sous-traitants afin d'éviter que ces marques soient vraiment exposées. Qui d'entre vous a eu l'idée de proposer cette série documentaire très concrète ?
Tout part d'Antonio Grigolini, le directeur de Slash, qui, je pense, avait dû discuter avec Antonio Casilli, il en connaissait le travail, et il nous a demandé de tenter de l'adapter, d'en faire une série documentaire. C'était pas une adaptation stricto sensus, mais de partir de son travail, de son analyse, un travail qui est effectivement condensé, qu'on retrouve pour l'essentiel dans son dernier livre, En attendant les robots, mais qu'il avait amorcé depuis très longtemps déjà, que nous avions suivi déjà à distance. Je crois qu'en 2012, je l'avais rencontré à l'occasion d'une émission sur France 5 qui s'appelait Le 20h et qui traitait de culture digitale. Donc ça fait assez longtemps qu'on suit ses travaux. Mais donc l'origine du film, c'est Antonio Grigolini et Antonio Casilli, qui je pense nous ont un peu identifiés puisqu'on se connaissait un peu et je pense qu'ils appréciaient le travail qu'on effectuait pour Datagueule, Julien et moi. Donc voilà, la collaboration s'est effectuée assez naturellement.
Donc le travail, du coup, un travail d'enquête toujours très très précis, mais en même temps Datagueule et votre approche qui se veut abordable.
C'est très pédagogique et didactique, Invisible, cette série-là, de par les choix de réalisation qu'a fait Henri et le montage qu'il a opéré là-dessus. Mais malgré tout, on n'est pas, il y a pas de voix off par exemple. Alors que la colonne vertébrale d'un Datagueule, c'est la voix off. Les autres longs métrages qu'on avait fait avant en documentaire, il y avait toujours cette présence d'une voix. Là, il y a eu ce parti pris d'être en no comment et de laisser la parole intégralement justement à ces invisibles, hommes et femmes. Et donc, c'est quand même une autre manière de faire, mais avec une réussite, c'est certain, du côté de rendre compréhensible et visible cette réalité-là, et au final, c'est pas du tout opaque, enfin, c'est très limpide quand on traverse les épisodes.
C'est effectivement presque l'antithèse invisible, l'antithèse de ce que l'on fait comme travail sur Datagueule. C'est-à-dire que sur Datagueule, on travaille sur des systèmes qu'on tente de décortiquer grâce au travail d'enquête puis d'écriture. Là, l'enquête était déjà faite. Le travail d'analyse d'Antonio était complet. Il s'agissait pour nous de l'incarner. C'est quelque chose que je cite assez régulièrement, mais qui me tient à cœur, parce que ça me semble très pertinent. C'est une citation du Comité Invisible, dans Maintenant, où ils évoquent le fait de parler de la vie, de la lutte, du travail, qui n'est pas la même chose que parler depuis la vie, depuis la lutte, depuis le travail. Et pour nous, c'était important d'emblée que derrière cette espèce de discours aussi très marketing de l'application qui change la vie, le connecting people, le tout va bien, ce discours, ce paravent start-up qui nous est énoncé, on allait voir des individus, des singularités qui sont à ce point singulières qu'elles deviennent archétypales, qu'elles deviennent le reflet d'une réalité bien plus considérable en nombre que ce qu'elle représente initialement. Donc on est parti de l'individu.
Et donc l'individu, vous le faites entendre, vous lui donnez la parole. On va notamment écouter Bilal, qui travaille pour Uber Eats et qui est sur son vélo jusqu'à 60 heures par semaine.
Moi j'ai 24 ans, ça fait 2 ans et quelques que je bosse pour Uber Eats. Je vis chez mes parents, j'ai 3 frères, un frère de 26, un autre de 23. Et un 10 ans après moi, un 14 ans, il est au collège. L'autre aussi, il fait Uber Eats, celui-là qui a 1 an de moins que moi. Et le grand, lui, il a déjà fait Uber Eats, mais là, il va reprendre Uber Eats. Voilà, donc je crois qu'on fait tous Uber Eats. Moi, en général, je fais 60 heures par semaine. 60 heures, 70 heures. Par exemple, pour 60 heures en moyenne, là actuellement, en 60 heures, je fais 400 euros. 400 euros brut. Après, je dois entre 24 et 23% à l'État, à l'URSSAF. C'est moi qui paye tout, le vélo, les crevaisons, les habits. Par exemple, Uber, pour un t-shirt, ils vont nous demander une caution. Pour le sac, là, je paye 80 euros de caution pour un sac d'occasion. Comme l'abonnement téléphonique, je le paye moi-même. Et les crevaisons, on en a au moins 3-4 dans le mois.
Bilal, qui donc passe ses journées à pédaler, qu'il explique en fait qu'il n'y a pas de limite légale pour un travailleur comme lui en nombre d'heures travaillées dans la semaine. Ce qu'il dit, c'est que tant qu'on est connecté sur l'appli, on est prêt à travailler. Et on doit payer notre couverture santé, etc. Et au final, le salaire est un salaire de misère. Donc vous le faites entendre et l'interview a été menée alors qu'il est en train de pédaler.
Voilà, c'est ce que j'appelle effectivement parler depuis le travail. On parle du travail à partir de son lieu de travail autant que possible. Alors, il a pendant l'entretien, le tournage, il a vraiment travaillé, il a livré des commandes, il était allé en chercher. Et puis entre deux coups de pédale, parfois je lui posais une question. Il y répondait, mais sans s'interrompre. Je trouvais ça intéressant, effectivement, de placer l'expression de sa réalité, sa propre expression de sa réalité, dans le temps et dans l'énergie de son travail, de ce dont il parlait.
Et ce qu'on comprend très vite, dès le début de ce premier épisode, c'est que ces livreurs, qui pédalent ou roulent en scooter, produisent des données de géolocalisation, de déplacement, qui vont servir après à alimenter les futurs véhicules autonomes, par exemple d'Uber dans le monde, et qu'ils ne sont pas payés, ces chauffeurs-livreurs, pour ces données qui sont produites. Ils sont juste payés pour le plat qu'ils vont livrer à un client lambda.
Ouais, alors ça effectivement c'est l'aspect un peu macro qui est notamment ramené par tout le travail d'Antonio, mais effectivement on ne voit pas du tout ce travail-là. Or c'est un travail crucial pour les plateformes, c'est-à-dire que toutes ces plateformes-là, Uber, Deliveroo, etc. L'or qu'ils récoltent, en fait, leur valeur ajoutée, c'est les données qu'ils collectent. Et ces données-là, elles sont produites par tout un chacun. Elles sont produites en partie par tous les utilisateurs et utilisatrices, y compris gratuites, ces plateformes. Et elles sont produites aussi par ces livreurs et livreuses, ou chauffeurs, chauffeuses, qui, du coup, sont pas conscients, sont pas disponibles pour ça. Enfin, en tout cas, ne facturent pas ça. Alors que, effectivement, quand Bilal attend une commande, que le GPS travaille sur sa géolocalisation, qu'il ouvre l'application, qu'il fait des choses à l'intérieur de l'application, qu'il tente des trucs, etc. Bah, toutes ces données-là sont prises par la plateforme et elles sont ensuite agrégées, utilisées. Alors pour certaines plateformes, ça va être utilisé pour mieux faire tourner leur moteur de recherche, mieux faire tourner le GPS, mieux faire tourner ci, mieux comprendre, optimiser le fonctionnement. Et en fait, sans le travail de ces travailleurs-là, sans le travail des données, ces plateformes pourraient pas fonctionner. Grosso modo, si nous on les utilisait pas, si on leur laissait pas la libre utilisation des données, bah, elles pourraient pas fonctionner parce qu'elles pourraient pas s'optimiser. Elles auraient pas cette base de données énorme qui leur permet d'optimiser leur propre fonctionnement. Donc voilà, ces travailleurs et ces travailleuses produisent ces données en permanence. Et effectivement, sont pas du tout rémunérés. Ils sont rémunérés uniquement pour transporter, en l'occurrence en termes de livraison, un repas d'un endroit A à un endroit B. Ils sont mal payés pour ça et ils sont certainement pas payés pour tout le reste de ce qu'ils produisent.
Et il y a des challenges, entre guillemets, qui sont faits par certaines plateformes pour inciter les livreurs à faire toujours plus en un temps réduit. Et par exemple, un livreur nous explique que si le dimanche soir, en 3 heures de temps, on arrive à faire 15 livraisons, eh bien, on aura un bonus de 40 euros. Sauf que quasiment tous disent que c'est simplement infaisable. Même en grillant tous les feux, en prenant tous les risques, on ne peut pas y arriver. C'est le capitalisme à outrance, en fait.
Et puis c'est aussi la gamme. Il y a une sorte comme ça d'utilisation de par le jeu. Il y a un truc qui m'a touché aussi en filmant Bilal et Zlat et également en regardant les rushs, parce que quand on monte les films, on a une relation, on développe presque une intimité avec les personnages, le fait de revoir les mêmes expressions et de décortiquer des instants du réel. Il y a une séquence à la fin qui se passe dans une voiture et on voit bien que les deux frères à ce moment-là. Ils vivent pour que leur appli Uber se mette à sonner.
Et pour avoir des pouces en l'air.
Et pour avoir des pouces en l'air, et pour être bien noté, et pour effectivement réussir ce challenge, sachant évidemment qu'il va les mettre en danger. Il y a un design de la plateforme qui est assez pervers et très efficace pour mettre les livreurs dans une situation presque d'addiction à un travail qui les rémunère très mal. Ce qu'on n'a peut-être pas dit assez précisément là à l'instant, c'est que ils ne sont payés que quand ils livrent, ils sont payés à la tâche. Mais quand ils attendent entre deux livraisons, ils sont pas payés. Il y a un des livreurs qui dit dans l'épisode 4, on est comme des pompiers. On est sur le coup, on est, quel est le terme technique des pompiers, il m'échappe à l'instant.
À disposition,
on est
d'astreinte. Ouais, voilà, il dit voilà, on est d'astreinte. Mais les pompiers, comme les pompiers, mais les pompiers, eux, ils sont payés. Et nous, on n'est pas payés. Donc évidemment, il y a des coups de chaud. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait plein de livreurs pour livrer au plus vite, puisque c'est aussi la promesse de l'application à destination de ses clients. L'application a tout à gagner, à ce que ce soit le fait le plus rapidement possible. Et puis, il y a des moments, bien sûr, beaucoup plus creux. Donc cette manipulation via les designs, c'est vachement intéressant aussi à observer et d'en voir les effets.
Julien Goetz.
Et ça va dans la ligne droite de la question sur l'utilisation de ces données et la richesse de ces données pour les plateformes. C'est-à-dire qu'il y ait un livreur ou une livreuse qui produise des données, c'est pas très intéressant pour Uber Eats ou pour Deliveroo, mais qu'il y en ait des centaines qui en produisent, ou des centaines de chauffeurs ou de chauffeuses, ça devient intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, ils occupent un marché. Par exemple, le marché de la livraison sur le 18e à Paris ou sur l'ensemble des arrondissements de Paris ou le marché du transport de personnes. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent jouer au sens propre du terme, c'est-à-dire que ces plateformes peuvent jouer à déplacer cette foule de travailleurs et de travailleuses aux endroits où ça va être le plus rentable pour la plateforme, c'est-à-dire vers là où la plateforme aura identifié que, bah tiens, par habitude, on sait que parce qu'on a réussi à croiser les données des habitants du 14e à 23h, il y a un pic de demande, etc. Donc je vais diriger mes livreurs vers cet endroit-là. Et je vais diriger mes chauffeurs à tel endroit parce que je vais provoquer des flux et du coup je vais pouvoir gamifier un peu en disant, bah tiens, si tel soir, à telle heure, sur tel arrondissement, vous avez envie de gagner un peu plus, essayez de faire autant de courses que ça. Et du coup, ça fera grimper votre prime, etc. Mais tout ça, c'est possible uniquement parce que les plateformes, au préalable, ont récolté toutes ces données, autant du côté des livreurs et des livreuses, des travailleurs et des travailleuses, que de notre côté, c'est-à-dire des utilisateurs, où on leur laisse la possibilité de comprendre nos modes de vie et donc d'identifier des sortes de ce qu'ils appellent des patterns, de se dire, bah voilà, à telle heure, à tel truc, il y a un créneau. Et effectivement, c'est pas très neuf, c'est juste les outils qui permettent d'aller plus loin, mais c'est une logique capitalistique de base de se dire bah, je vais identifier au mieux mon marché, je vais pouvoir le cibler au mieux et je vais faire correspondre l'offre et la demande, et voilà.
Moi, ce que j'observe quand même dans toute cette problématique-là, c'est cette espèce d'obsession de l'optimisation à tout prix. Et quand on dit à tout prix, c'est bien sûr au prix de la vie, de leur qualité de vie, de leur de la, et puis jusqu'à la vie propre. Hein. Les livreurs sont morts sur un vélo. Faut pas l'oublier. Il y a plusieurs depuis que Uber Eats et Deliveroo et d'autres plateformes utilisent ces principes d'optimisation à tout prix. Certains y ont laissé leur peau. Donc il y a quelque chose qui me semble être un paroxysme là dans cette dans la problématique de la livraison et de ces plateformes de livraison, mais également des autres problématiques dont on parlera, j'imagine, le micro-travail ainsi que la modération. C'est que finalement, tant qu'on optimise ses résultats financiers, qu'on optimise l'argent redonné en dividende à ses actionnaires, le reste importe peu.
Uber Eats n'a pas souhaité répondre à votre demande d'interview.
Non, on a essayé vraiment au début, hein. On a essayé par acquis de conscience, pour
vous dire... Vous doutiez bien qu'il n'allait pas répondre de
pas vraiment, bah, à un moment, on était au tout début de l'enquête et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire entendre cette parole-là, qui est une parole de communication. On n'espérait pas un dialogue au sens premier du terme, d'humain à humain. Hein. On aurait eu en face de nous un DIRCOM qui nous aurait donné la voix officielle et tous ces stéréotypes de marketeux qu'on connaît déjà. Et on a décidé finalement assez tôt de les synthétiser dans ces ouvertures et fermetures d'intro et outro d'épisodes, qu'on a écrit d'ailleurs en condensant des éléments qui préexistent de leur communication interne ou externe. C'est-à-dire qu'on a fait du copier-coller en changeant un peu l'ordre et en trouvant un petit final un peu amusant. Mais on n'a rien inventé finalement. Le discours de ces plateformes, il est là. On les entend.
Nous sommes un acteur majeur de l'externalisation des métiers de la relation client.
Nous assurons une offre globale onshore et offshore,
répondant aux enjeux de la globalisation
et une expertise multiservice,
permettant de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de la relation client.
Prestataire de l'input optimisé,
nous accompagnons de prestigieux donneurs d'ordre locaux,
régionaux
et internationaux,
opérant dans de multiples secteurs et industries,
dans la création de valeur
et l'optimisation de l'expérience client,
avec une approche unique
et orientée vers l'excellence opérationnelle.
Pour cela,
nous nous appuyons sur la compétence de nos collaborateurs,
passionnés et engagés dans une démarche constante
de qualité de service,
sur notre proximité
et agilité reconnue,
et notre esprit entrepreneurial.
Notre culture d'entreprise,
fondée sur un management par les valeurs
et un ADN humain,
intègre une dimension sociale forte,
garante de la pérennité de nos activités.
Et si vous avez compris un seul truc à ce bullshit,
nous sommes faits pour co-worker together.
Bullshit, parce que quand c'est mieux, c'est pas plus mal.
Le second épisode de cette série Invisible, les travailleurs du clic, s'intitule Micro-travailler plus pour micro-gagner moins. Et il débute par le témoignage d'une mère de famille qui travaille pour Google.
Donc je me connecte via une adresse Gmail qui a été créée pour le travail, pour ce travail. Et donc j'atterris sur un site spécifique où les tâches sont distribuées. Donc là, par exemple, on est sur donc cette tâche de comparaison d'un mot-clé et d'une recherche d'une personne, et on a la moutarde de Dijon et moutarde de Dijon. Donc la moutarde Dijon, d'ailleurs, il n'y avait pas d'article. Et on nous demande de savoir si finalement ça a le même sens pour la recherche Google. Donc on considère bien évidemment que ça a le même sens. Et une autre, pareil, même chose, accrocher tableau sans percer, comment accrocher des tableaux sans percer. Donc on considère bien évidemment que la personne recherche la même chose. Donc on aide l'algorithme à s'améliorer. Voilà. Alors, je n'ai pas de contrat réel. À tout moment, je peux m'arrêter de travailler, d'ailleurs, sans les prévenir, chose que, bien évidemment, je ne ferai jamais. Comme eux-mêmes peuvent stopper la collaboration quand ils le souhaitent, sans préavis. Il n'y a pas de contrat.
Il n'y a pas de contrat et Nathalie n'a jamais parlé à personne de ses employeurs en 3 ans de travail. Justement, c'est ça, on a l'impression qu'ils travaillent pour des mastodontes sans jamais ou rarement en ayant des interlocuteurs en face d'eux, toutes ces petites mains.
Non, mais ce que produit la technologie sur ce genre de travail-là, c'est un morcellement très minutieux et très méthodique de tous les processus.
Et donc des responsabilités aussi.
Bah de tout, en fait. Mais c'est, encore une fois, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est inhérent aux tuyaux par lesquels ça passe. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très en adéquation. Le principe, et on le sait, des briques technologiques, c'est que justement de fonctionner par briques et de se dire, ok, je vais faire plein de petites briques et du coup je pourrais les assembler dans plein de sens différents, etc. Ça, c'est des principes théoriques. Et ben ces principes théoriques, avec la réalité du monde dans lequel on vit et des outils techniques technologiques avec lesquels on vit, c'est que ça transforme ce monde. C'est-à-dire que finalement, ben, les humains sont des briques comme les autres. Et logiquement, des entrepreneurs et des entrepreneuses vont se dire, bah, ok, moi j'ai besoin de développer tel produit, je peux avoir accès à tel travailleur qui vont faire ça sur 2 heures, elle, je vais la faire bosser 1h30, là je vais lui donner une mission de 2 jours et demi et ça me suffira, et j'aurai mes briques d'humains que je peux intégrer dans mon ensemble de business plan et de fonctionnement et de mon outil, et ça sera très bien, et je me pose même pas la question de quel est l'impact sur ces humains en fait. Et à faire, au final, et je les paye pour ce qu'ils font quand même. Bon, ça va, du coup, il y a une relation, c'est cool, je les paye, ils me bossent.
Pas très bien quand
non,
même.
Non, pas bien, mais il y a quand même cette logique-là. C'est vraiment inhérent aux outils dont on parle. C'est-à-dire que il y a une logique interne à ça, de se dire, bah, on fonctionne par briques, et c'est super, et c'est génial, et on va optimiser. Et du coup, ça morcelle énormément, et ça donne ces réalités-là, de l'autre côté, de travailleurs ou de travailleuses qui, effectivement, croisent personne, bossent tout seul, bossent sur des mini-missions, font des trucs abétissants. Voilà.
Oui, et puis en plus, avec dans le contrat, quand même, l'obligation de n'en parler à personne, et de ne pas travailler dans les espaces publics. Pas juste comme ça, juste parce qu'ils manipulent les données qui seraient sensibles, parce que les données sont pas sensibles du tout. Là, en l'occurrence, celles qu'on observe très précisément dans le documentaire, c'est juste de l'adéquation de recherche. De recherches similaires, sont-elles similaires ou non? Est-ce que la proposition faite par l'algorithme est la bonne ou non? Donc, c'est la vérification de requêtes. Ce qu'un enfant de 10-15 ans est à même de faire, hein, c'est très très mécanique, elle en convient évidemment. C'est juste que si on invisibilise, c'est pour surtout pas briser, abîmer cette image ultra-tech d'un Google qui ne fonctionnerait que grâce à des algorithmes tout-puissants, une intelligence artificielle absolument extraordinaire, à ce point extraordinaire qu'elle se passerait de l'humain, et humain libéré de ses tâches contraignantes. En fait, non. Des micro-travailleurs, on sait aujourd'hui qu'ils sont entre 50 et 100 millions. Antonio disait 100 millions hier. On a mis 95 millions. C'est une approximation.
On était entre 45 et 90 millions dans le monde.
Oui, mais non, Antonio, sur des chiffres Antonio plus récents, Cassidy, nous parle de 100 millions aujourd'hui. Alors évidemment, ces chiffres sont compliqués à obtenir, et pour cause, puisqu'ils sont invisibilisés. Donc il n'y a aucun institut qui a pu élaborer des stats. Les chiffres, les données, les datas manquent. Et parce qu'elles sont masquées. On pourrait effectivement compiler, je crois que Google et tous ses prestataires, et puis tous les prestataires d'Amazon et autres GAFAM, ont ces chiffres-là, et ils se gardent bien de nous les donner. Tout ça pour effectivement continuer à nous dire que ce monde-là, cette technologie toute puissante, règne et nous libère, alors qu'elle contraint en réalité des millions de personnes.
Derrière ces outils technologiques qui nous semblent fabuleux et nous libérer d'eux et nous permettre un certain confort de vie, mais si on revient sur la question des livraisons, c'est la même chose. On est heureux de se faire livrer notre repas, on est heureux de se faire emmener par un chauffeur d'un point A à un point B, on est heureux de pouvoir commander quelqu'un pour faire le ménage chez nous en un clic sur une application. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est faire travailler les autres à notre place. Et quand on comprend que Siri, par exemple, l'assistant vocal d'Apple, est calibré, mais comme tous les assistants vocaux, hein, c'est pas Apple plus que les autres, est calibré, vérifié et corrigé par des humains, en fait, c'est la même logique. Ce confort-là technologique ne s'appuie que sur un énorme coussin qui est en fait des humains, et un coussin qu'on piétine allègrement sans se poser de questions.
Mais il faut juste rajouter une chose, c'est que le coup de génie quand même, parce que c'est assez brillant, et c'est aussi ce qui ramène au terme invisible de ces plateformes, c'est que même ceux qui font ce travail considèrent que ce n'est pas totalement un travail, que c'est un job provisoire, entre deux, qu'ils font ça avant de trouver mieux, et ils trouveront très bientôt mieux. Alors ce très bientôt, ça peut être dans 10 ans ou jamais. Mais c'est invisibilisé là aussi. Et l'intérêt également de ces plateformes de ne pas mettre en lien ces travailleurs les uns avec les autres, voire de l'empêcher, puisqu'on n'a pas le droit de parler à ses collègues qu'on ne croise évidemment jamais, c'est que du coup, il n'y a pas de conscience de soi. Ne parlons pas de conscience de classe. quoique on pourrait en parler là, mais conscience de d'appartenir à un même collectif. Et donc, comme il n'y a pas de conscience d'appartenance à un même collectif, il n'y a pas de réaction collective, il n'y a pas de revendication collective, donc de syndicalisme.
Et ces entreprises s'adressent également et recrutent parmi des personnes que l'on peut qualifier de vulnérables, sous couvert d'empouvoirment, de s'adresser aux femmes, par exemple, aux femmes des pays du Sud, en Afrique. Vous êtes allé notamment à Madagascar, vous donnez la parole à Nomena et Marolafi, qui sont toutes deux des micro-travailleuses et qui travaillent pour des services après-vente ou des services de réponse aux utilisateurs sur les réseaux français. On les écoute.
J'ai trouvé un travail sur une autre plateforme appelée. La sélection et les démarches étaient très rudes. C'était difficile et très longue. C'est une plateforme qui dit vouloir aider des jeunes femmes d'Afrique et d'Asie à avoir une rentrée d'argent stable et puis les aider à réaliser leur projet de vie.
Il y avait un projet retranscription audio. On retranscrit la conversation entre le service client et les clients qui se plaignent ou qui a des remarques à faire. J'ai fait en total 812 tâches. Donc 812 tâches, ça m'a pris une semaine. Parce que j'ai fait ça pendant une semaine, journée et soir. C'était pour à peu près moins de 40 euros, je dirais. Oui, vers les 30 euros pour faire ça.
Donc on profite de ces femmes qui n'ont juste au final besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet stable pour leur faire faire des petites tâches peu valorisantes, très chronophages et surtout peu rémunérées.
Alors, peu valorisante, certes, mais alors, par exemple, le travail qu'effectuait Nomena, c'est un travail de modération, je mets des guillemets, pour notamment Disneyland.
De community management.
De community management. C'est un travail qui nécessite quand même une excellente maîtrise du français, une compréhension précise des relations sociales.
Tu crois que c'est elle qui explique qu'elle a fait des études en Chine?
Alors, c'est pas, elle n'a pas fait des études en Chine. C'est Keitasu. Mm. C'est la seconde. Nomena, elle a fait les bacs plus 5. Elle pourrait être prof au collège. Simplement, l'état de Madagascar est tel que les profs au collège gagnent encore moins que ce qu'elle fait pour cette plateforme. Mais c'est-à-dire que là, on est quand même dans un travail qui nécessiterait, qui nécessite d'ailleurs, un niveau d'études certain, un engagement, une pertinence. Et là, c'est vachement intéressant d'aller en Afrique. Parce que ces jeunes femmes éduquées, qui ont fait, encore une fois, de brillantes études par la suite, après leur bac, sur un modèle qu'on connaît bien d'ailleurs, hein, qui maîtrise parfaitement le français, elles font le travail pour quelques dizaines d'euros, alors 200 euros par mois pour Nomena, par exemple, c'est un forfait, et elles s'en tirent bien, mais un travail qui serait rémunéré largement au-dessus du SMIC en France. Donc là, encore une fois, on optimise, c'est très très malin. C'est-à-dire tout d'un coup, pour un travail un peu plus compliqué, qui est plus que de la vérification, qui est beaucoup moins technique simplement que de micro-travail un peu classique, mais qui nécessite un peu de lecture, de complexité, de maîtrise de la langue, la transcription, c'est pas facile la transcription. La traduction parfois aussi, le sous-titrage, hein, faut savoir que dans nos métiers, l'audiovisuel, il y a pas mal de plateformes qui nous proposent, à moindre coût évidemment, en prétextant, j'ai reçu encore une pub hier, en prétextant une intelligence artificielle qui traduirait automatiquement. Bon. Et qui transcrirait automatiquement. Je l'ai reçu hier.
Ce qu'on entend souvent en réaction de ça, c'est de dire oui, mais quand même, elles gagnent leur vie et du coup, ça leur donne un revenu qui finalement, comparé au niveau de vie de Madagascar, est pas si mal que ça. Et dans l'absolu, c'est pas totalement faux. Nomena, les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit effectivement, par rapport au niveau de vie médian de Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres au monde, bon, effectivement, c'est pas rien ce qu'elle gagne. Mais ce qu'il faut raconter derrière ça, c'est qu'en fait, Madagascar, on commence à avoir un peu de recul avant l'arrivée du numérique et des outils pour aider l'intelligence artificielle. Madagascar était une énorme plateforme de services, de téléservices. Tous les centres d'appel, etc. Il y en avait énormément à Madagascar. Et ça, c'était pas il y a 6 mois, ça a duré un sacré paquet d'années. Ça n'a pas empêché, de la même manière, les gens étaient payés correctement pour le niveau de vie de Madagascar. C'est le même discours. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, Madagascar est toujours le pays le plus pauvre au monde, un des pays les plus pauvres au monde. Donc en fait, cette logique de dire « oui, mais du coup, voilà, c'est pour l'empowerment, on amène du travail à ces gens, ça va permettre au pays de grandir, de gagner plus d'argent, et ça va aller... » Mais non, c'est faux en fait. C'est pas vrai, c'est factuellement faux. Ça n'aide pas les gens à se sortir. Voilà, il y a une bonne partie des ressources qui transitent là-dessus sont payées du coup sur des contrats très problématiques et l'État de Madagascar ne récupère quasiment rien dessus. Donc en fait, non, c'est un discours marketing qui nous fait croire que bah c'est super, on va les aider, mais c'est pas vrai. Et elles le disent très bien elles-mêmes dans le documentaire. En fait, elles s'en sortent pas de ça, et ça leur ouvre pas des perspectives dingues. Alors évidemment, si on écoute les entreprises, les startups qui font ça, elles vont nous sortir l'exemple de la femme qui a monté son entreprise derrière. Ok, mais pour combien d'autres qui ne l'ont pas fait en fait, si ça représente 0,01%, ça n'a pas d'intérêt réel et ça déconstruit complètement leur discours. Et l'autre chose derrière ça, pour répondre à la question aussi, c'est effectivement tous ces jobs-là touchent des gens qui sont à la marge. Mais par définition, parce que les conditions sont tellement mauvaises que forcément, les gens qui peuvent éviter de prendre ces boulots-là vont éviter de prendre ces boulots-là, en fait. Donc forcément, ça va être les minorités, ça va être les femmes, les plus pauvres, ceux qui ont du mal à trouver du boulot, que ce soit à Madagascar, en Afrique, ou en France, ou aux États-Unis. Ou... Mais forcément, ça touche les minorités nécessairement, et ces boulots sont faits par les minorités.
Un des épisodes de Invisible, les travailleurs du clic, est consacré à la modération en ligne. On va écouter Chris Gray, un modérateur de Facebook basé à Dublin, en Irlande. Il raconte son quotidien.
Dans la modération, les choses que vous voyez les plus atroces ne représentent qu'une petite partie. Sur 500 contenus, seuls 50, parfois seulement 5, sont vraiment moches. La majorité de ce que l'on voit est surtout ennuyeux, déprimant, triste. Par exemple, des enfants, surtout sur Instagram, des jeunes qui se disputent, qui s'insultent, par exemple. Oh, Julian a de grosses fesses. Julian est moche aujourd'hui. Des bêtises, vraiment. Et il faut décider. Est-ce qu'il s'adresse à un enfant? Si oui, c'est interdit. On ne peut pas dire ça, on peut le dire à un adulte, mais pas à un enfant. Et ce n'est pas ce qui fait le plus mal, ce n'est pas si grave, mais ça devient déprimant à force, parce qu'on ne voit que le mauvais côté de l'humanité. On est sans arrêt confronté à cet aspect mesquin et malfaisant de la vie que beaucoup de gens mènent.
Comme Chris Gray qu'on vient d'entendre, il y a des dizaines de milliers de modérateurs de Facebook dans le monde. On rappelle que Facebook a des, je crois que c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, quelque chose comme ça, 2 milliards et demi. Oui, et donc bien des milliards de messages partagés chaque jour. Et des gens, eh bien quand il y a des alertes, des signalements, qui sont chargés de regarder ces textes, ces photos, ces vidéos, et qui sont donc exposés au mauvais côté de l'humanité. C'est ce que dit ce témoignage. Là. Comment est-ce que vous avez réussi à identifier ces gens-là, ces modérateurs que vous interviewez ?
Long process et compliqué.
Oui, oui, ça a pris du temps parce qu'évidemment, ils sont dans des bulles. Hein. Ils travaillent à des endroits où, pour la faire simple, ça, voilà, quand ils rentrent où que ce soit dans les divers centres de modération en Europe, mais aux États-Unis, il faut qu'ils déposent leur téléphone portable. Ils n'ont pas le droit d'emmener de sac. Ils n'ont pas le droit d'emmener rien en fait. Ils sont juste devant leur poste de travail. Ils n'ont pas le droit d'avoir de clé USB par exemple. Et, voilà, ils sont juste dénudés. Et donc on n'a pas accès à eux, c'est très compliqué de discuter avec eux. Alors il se trouve que Chris avait commencé lui à assumer cette position de lanceur d'alerte, de « je veux raconter cette histoire-là », mais il n'y avait pas eu énormément d'écho. Simplement en Irlande, il y avait eu une interview avec lui, donc moi je l'ai identifié grâce à ça, et il a très vite répondu. Et puis après, c'est la personne qu'on rencontre à Barcelone, c'est par d'autres biais de gens sur place, arriver à trouver quelqu'un qui... Mais c'est là, en l'occurrence, c'est deux personnes qui n'y travaillaient plus. C'est très compliqué de discuter avec des gens qui sont encore dedans, parce que Ils ont une épée de Damoclès. Déjà, eux deux qui nous parlent prennent des risques, puisque le contrat, le NDA, le
Non-Disclosure Agreement,
voilà, fait qu'ils n'ont pas le droit d'en parler à vie, y compris quand ils ne travaillent plus pour ces entreprises-là. Donc déjà, ils prennent un risque et c'est courageux de le faire en étant sorti, mais quand on est encore dedans, c'est encore plus compliqué. Ouais.
Moi, j'ai passé vraiment une bonne semaine à Barcelone et je n'ai pu filmer qu'un entretien. On a essayé de mille manières. Nous avions un journaliste sur place qui aussi était au contact et qui a tenté. À Barcelone, il y a à peu près une estimation à peu près 800 modérateurs. Différentes langues, une petite centaine de Français probablement.
Dans une tour.
De francophones. Dans une tour, une très très belle tour. Une tour extrêmement... Je ne sais plus quel est l'architecte, ça va revenir, peu importe, c'est secondaire. Bon. Cette semaine-là m'a été vécue un peu comme un échec, hein, puisque effectivement, moi j'espérais 2, 3, 4 témoignages recoupés. On a eu des recoupements au téléphone, mais personne n'a souhaité effectivement assumer le tournage.
Puis il y a eu des annulations, hein, parce qu'on avait prévu on avait des rendez-vous avec d'autres personnes. On avait une modératrice qui bossait notamment, une jeune modératrice qu'on avait rencontrée, on avait discuté avec elle par visioconférence avant d'aller à Barcelone, qui travaillait pour TikTok, le réseau, et Instagram, donc qui ont les mêmes problématiques de modération, hein, mais qui, au final, une fois arrivée sur place, a dit bah non.
Il y a une vraie trouille, en fait. Moi, j'ai senti la peur.
Mais la peur, on l'entend d'ailleurs dans celle que vous prénommez Amélie, modératrice sur Facebook, qui dit je ne peux rien dire, on ne sait jamais, ils ont les moyens de tout.
Mais oui, mais
elle craignait pour sa vie, concrètement.
C'est Facebook,
votre avis.
Hein. Pas au sens littéral du terme, premier du terme, ils n'en sont pas encore là, moi j'espère, mais non, en revanche, un procès peut la ruiner à tout jamais. Les conditions du contrat qu'elle signe nécessairement pour pouvoir accéder à ce travail, qui est un job pas trop mal payé celui-ci, c'est plutôt honnête. Quand on est jeune étudiant, on est content de trouver un job autour de 20 000 euros par an, ce qui est vraiment pas mal. Sauf que l'année, tu la fais pas. Sauf que tu vas pas au bout de ton année. Le problème, c'est que au bout de quelques mois, bah tu craques, parce qu'à force de voir effectivement plusieurs dizaines d'horreurs hein, sur 2 milliards et quelques de comptes actifs, il y a nécessairement des esprits malades, nécessairement. Voilà, c'est statistique, c'est comme ça. Et ces esprits malades, ils s'expriment et ils mettent des horreurs en ligne. Et ces horreurs-là, quand tu les vois une fois, deux fois, 10 fois, 5 fois, 10 fois par jour pendant des semaines et des semaines, ça devient problématique.
Écoutons justement ce que dit Chris Gray à ce propos.
J'ai de nombreux amis avec qui je travaillais qui sont désormais incapables de travailler. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils prennent des médicaments contre l'anxiété, des antidépresseurs. Mon médecin m'a dit que j'étais déprimé et que je devais prendre du Prozac. Parce qu'elle pense que je suis déprimé. Je ne crois pas en ces maladies. Je ne veux pas prendre de médicaments. Mais je ne vais pas très bien non plus. J'ai eu 3 jobs depuis que j'ai quitté Facebook, mais je n'arrive pas à les garder. Je me dispute avec les gens pour un rien. Donc, on a besoin d'aide. On a besoin d'un professionnel qui passe du temps avec nous et nous aide à comprendre quels sont nos problèmes et ce qu'on peut y faire.
Nous avons besoin d'aide. C'est un appel au secours, un véritable appel au secours. Et ce que l'on comprend également, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique pour ces modérateurs qui travaillent au quotidien face au mauvais côté de l'humanité.
Oui, pas réellement.
Non, oui. C'est de la blague, l'accompagnement psychologique. C'est ce que nous racontait Chris. C'est des séances de
coaching,
coaching artistique, enfin c'est des trucs très légers quoi par rapport à ce à quoi ils sont confrontés, c'est des choses très légères.
Moi ce que j'entends dans We Need Help, c'est riche de plusieurs significations, c'est qu'il y a bien sûr le Chris qui a ce syndrome post-traumatique hein, équivalent à celui
d'un soldat
qui viendrait du front, identifié comme tel par les psychiatres et qui touche un nombre incalculable de modérateurs au bout d'un certain temps. Incalculable parce que non calculé, et pour cause. Hein. Mais probablement très, 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 plus proche de la totalité que l'inverse. Et puis, il y a aussi on a besoin d'aide pour que, finalement, la problématique de la modération soit abordée avec pertinence. C'est un problème politique, au sens noble et grand du terme. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas à la solution, ce ne serait pas de couper Internet, ou de couper Facebook, c'est-à-dire des réactions de politiques qui ne s'intéressent pas beaucoup à la vitalité du web, d'Internet, des réseaux sociaux. Souvent, dès lors qu'ils sont confrontés à un problème, c'est comme pour l'anonymat, on interdit l'anonymat, on devrait réglementer les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, la fonction de modérateur est une fonction impérative, absolument nécessaire. Mais simplement, il faudrait l'accompagner. Il faudrait que traiter ces gens-là comme des gens qui vont effectivement au front pour le bien de tous et de toutes. C'est-à-dire avec un accompagnement, avec une vraie formation, avec des relais. Et les pouvoirs publics doivent s'engager, doivent s'emparer de cette question collectivement. Et
c'est ce que disent à la fois Chris Gray qui s'interroge, pourquoi les politiques ne s'associent pas à moi dans ma démarche pour justement essayer de réfléchir ensemble à tout cela, et Amélie, modératrice Facebook à Barcelone, qui dit « il y a besoin de modérateurs, mais il faut les considérer et penser à la communauté plus qu'aux annonceurs ».
Oui, oui, mais ils le racontent tous les deux très bien, et alors on peut pas tout garder dans un documentaire, mais il y a des choses que Chris nous racontait aussi, où il a une approche hyper intéressante, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, l'une des problématiques des modérateurs, notamment de Facebook, et donc d'Instagram, puisque Instagram appartient à Facebook aussi, c'est que les règles de modération sont édictées par Facebook à partir de Palo Alto, enfin aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui définissent les règles pour le monde.
Sur des standards américains.
Sur des standards américains. Et donc forcément, Chris dit, en fait, que ce soit en Irlande, là où lui travaillait, ou en France, est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui doit édicter des règles pour savoir si on doit considérer tel message comme devant être banni du réseau ou pas, alors que c'est un message qui forcément est très lié à un contexte de pays, à un contexte historique, à un contexte présent d'actualité, à un contexte... Enfin, il y a 12 000 contextes. Est-ce que sincèrement, ces règles peuvent être édictées à cet endroit-là? Or, comme Facebook est à la fois un réseau social public dans le sens où tout le monde y participe, mais en même temps privé dans le sens où il appartient exclusivement à Facebook, ben on a un problème de fond à ce moment-là. Et la régulation, en tout cas le questionnement des règles, au sens de quelles règles s'appliquent pour définir qu'un message doit être conservé ou pas, elle est posée pour l'instant et elle n'est pas résolue collectivement. Elle est résolue uniquement de manière privée et privatisée par Facebook. Ça veut dire que si je dois prendre une métaphore, si demain je vais sur une place publique qui appartient à Vinci, je prends au hasard Vinci, et ben c'est Vinci qui contrôle ce que je peux dire ou pas. C'est ça qui se passe sur Facebook en fait. Et moi j'ai pas voix au chapitre. Et Chris, en tant que modérateur, dit en fait on est au front. C'est nous qui devrions dire si cette règle est juste ou pas. On devrait avoir voix au chapitre pour aider à tous autant qu'on est, les Irlandais, les Anglais, les Français, chacun sur leur contexte géopolitique, parce que c'est trop complexe en fait pour laisser ça de manière si lointaine à quelques personnes qui comprennent pas le contexte, et c'est pas nécessairement de leur faute, ils peuvent pas en fait, mécaniquement ils peuvent pas.
Ces personnes que vous avez interviewées qui témoignent dans votre documentaire Invisible, les travailleurs du clic, eh bien, pour certains d'entre eux, interviennent de façon anonyme, donc on l'a expliqué, c'est pour des raisons de clause de confidentialité qui continuent à courir même après la fin de leur contrat en cours. Et il y en a un, Edouard, que vous présentez au début comme Edouard, qui travaille pour Apple, au Royaume-Uni, à Cork, c'est ça. Qui lui travaille sur l'intelligence artificielle d'Apple, Siri, et qui au final, au milieu de l'interview, dit en fait j'aimerais en parler à visage découvert, parce que ben voilà, il faut que quelqu'un raconte ce qui se passe, comment ça se passe, et le fait que ben des gens comme moi écoutent en permanence ce qui se dit aux appareils Apple, ce qui se dit à Siri, et il devient un lanceur d'alerte. Il devient un lanceur d'alerte dans votre documentaire.
Mais d'un mouvement d'appareil où il se révèle, donc l'invisible devient visible, ce qui n'est pas su est dit, et c'est un moment fort, c'est un moment fort qui n'est pas mis en scène du tout. C'est-à-dire que quand Thomas...
Vous n'avez pas prévenu auparavant.
Alors Thomas, on savait qu'il hésitait.
Et parce qu'au final, il s'appelle Thomas.
Il s'appelle Thomas,
et non
pas Edouard, absolument. On va au bout du process de notre histoire à nous. C'est-à-dire que quand il est arrivé la première fois, quand on a eu vent de son témoignage... Il avait déjà témoigné pour El País et Le Guardian de manière absolument anonyme, parce qu'il avait été à ce point choqué qu'il voulait partager ce qu'il savait. Mais il avait compris, avec ses premiers témoignages anonymes, que son anonymat était une limite à l'écho de son témoignage, d'une certaine manière. Une des stratégies de défense d'Apple a pu être de dire, mais êtes-vous sûr? C'est facile l'anonymat. Il avait envie, il était taraudé par cette idée, effectivement, de se révéler complètement, donc d'assumer ce combat, en connaissant évidemment les risques qu'il encourait. Et Antonio Cassilli, qui nous l'a présenté au tout début, lui déconseillait d'apparaître à visage découvert. Disant, attention, tu prends beaucoup de risques. Donc nous, on était dans le même sens qu'Antonio Cassilli, on lui a dit non, c'est pas nécessaire, prends pas de risques, ne risque pas 20 ans de procédure et une vie brisée pour ce témoignage.
Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Alors c'est lui qui a changé d'avis. C'est-à-dire que le premier montage, il est invisibilisé, la caméra remonte, c'est le même montage, mais on tombe sur un visage flouté et la voix est encore transformée. On a rendu le prêt à diffuser, on appelle ça le PAD dans le jargon, à France Télévisions début janvier, avec cette voix transformée, ce visage flouté au terme du mouvement, cette impossibilité à se révéler. Et quelques jours avant l'avant-première, il nous a appelé en disant « Finalement, j'ai bien réfléchi, je veux apparaître à visage découvert.
Est-il accompagné maintenant par un avocat ou pourquoi, enfin, et pourquoi avoir pris le risque pour lui, en fait?
Alors, l'histoire ne s'arrête pas là tout à fait, puisqu'on lui dit, mais toi, t'es sûr? Non, c'est trop compliqué. Viens nous voir. Rentre en contact avec la couverture du net d'un côté et la maison des lanceurs d'alerte de l'autre. On s'est retrouvés. Il a revu l'ensemble du message. Et là, effectivement, il va être accompagné. C'est-à-dire que, un combat doit se mener collectivement face à de tels mastodontes. Donc, évidemment qu'il sera accompagné s'il devait y avoir un problème. Après, Je pense que ces gens-là connaissent l'effet Flamby ou l'effet Streisand. C'est-à-dire que s'il y a un procès contre Thomas aujourd'hui, ça donnera encore plus d'écho à ce qu'il a à nous dire et à nous révéler de Apple.
Donc on a un besoin de travailleurs lanceurs d'alerte. Ils ont un rôle crucial, c'est ce que dit Antonio Cassilli dans le dernier épisode d'Invisible, les travailleurs du CLIC. S'est-il passé quelque chose, justement, pour vos sujets, vos sources, depuis le début de la diffusion de votre documentaire?
Alors, à ma connaissance...
Y en a-t-il qui sont inquiétés?
Non. À ma connaissance, non. Non, je reste prudent parce que c'est... pas impossible qu'il y ait des conséquences.
Oui, c'est sûr, mais pour l'instant, non. Après, de la même manière un peu que Thomas, Chris, par exemple, qui prend aussi le risque de témoigner à visage découvert, lui, le fait avec une logique très simple, qui est de dire, mais je révèle pas grand-chose de... En fait, tout ce que je dis a déjà été dit, mais pas suffisamment, pas dans des cercles où ça a été suffisamment entendu. Donc, c'est pas un scoop pour Facebook que je raconte ça, mais ça doit être entendu de manière plus large. Donc,
on fait très attention à Nomena, par exemple. J'ai bipé le nom de la plateforme qu'il emploie.
À Madagascar.
Parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, elle aurait pu en subir des conséquences et elle m'a demandé de le faire, en fait. Donc, je l'ai fait, je l'ai bipé. Voilà. On est très vigilants, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème, bien sûr, pour nos anonymes et pour les autres aussi, évidemment, et on sera en tout cas à leur côté si jamais il y a quoi que ce soit.
Vous êtes-vous posé la question de la cible en réalisant ce documentaire? Puisque, voilà, quand on est journaliste documentariste, parfois on se dit, voilà, je vise en tel groupe de personnes.
On ne fait jamais ça, on fait jamais
non,
ça.
Non, vous n'êtes jamais posé cette question-là?
Non, on sait ceci dit, bon, c'est une commande. Puisque effectivement, le projet vient initialement d'Antonio, des deux Antonio, Rigolini et Cassilli, mais une commande qu'on s'est accaparée très rapidement et qui est devenue donc un film quasi personnel finalement, enfin un travail collectif en tout cas personnel au sens noble du terme, je veux dire. Mais donc c'est France Télévisions Slash, donc c'est effectivement un public jeune, le public jeune de France Télévisions, public jeune.
Une plateforme jeunes adultes.
Voilà, jeunes adultes, c'est les gens qui avant qu'ils ne s'installent, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient des emprunts, etc. Finalement la vraie vie quoi. Parce qu'après c'est tout ça. De pré-retraite, ou je sais pas. Indépendamment du fait de savoir qu'on allait effectivement ne pas avoir besoin d'expliquer tous les mots, parce qu'ils connaissent hein, Internet, ce qu'est le web, ce qu'est un réseau social, ce qu'est. Bon, on s'adressait à un public qui est nativement lié au sujet qu'on allait aborder, hein, qui est celui des plateformes. Voilà, indépendamment de ça, il n'y a pas de cible, c'est pas un jeu des mots.
Oui, moi j'aime bien reprendre toujours la même citation de David Dufresne qui dit « Dès qu'on me parle de cible, je m'écarte ». Voilà. Et c'est assez récurrent, notamment dans notre travail avec Henri, où les cibles, ça a été le cas pour Datagle, mais ça ne nous parle pas trop en fait.
Parce qu'on n'est pas au-dessus de ceux auxquels on adresse le film. C'est-à-dire qu'on le fait...
On est la cible, hein, nous aussi.
Voilà, on s'y intéresse, c'est un bras-le-corps, c'est un corps à corps avec le sujet, et puis voilà... Nous, on a une expérience et un travail à partager, mais pas beaucoup plus, quoi. Et donc, voilà, on s'adresse d'abord peut-être un peu à nous.
Ce documentaire en 4 parties de 20-25 minutes est présenté comme une saison 1. Y aura-t-il une saison 2 ?
Je ne sais pas du tout. Là, vraiment, à l'instant, je ne sais pas. Pourquoi pas, mais il faut être pertinent. Je ne sais pas. Il ne faut pas faire une saison 2 pour faire une saison 2.
Non, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant à raconter. Ça dépendra des suites de tout ça. Peut-être que ça dépendra un peu des plateformes et des politiques. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres histoires à raconter ? On verra.
On va écouter Antonio Cassilli dans le dernier épisode qui résume un petit peu tout cela. Invisible, les travailleurs du clic.
Le plus grand tour de passe-passe de ces plateformes, à mon avis, c'est d'une part de faire croire aux consommateurs ou en général aux usagers qu'il y a des processus automatiques, qu'il y a des algorithmes partout, alors que très souvent c'est vraiment des tâches qui sont réalisées à la main. Et de l'autre, de faire croire aux travailleurs que d'abord ce qu'ils réalisent n'est pas un vrai travail. Il l'appelle un job, un gig en anglais, donc voilà, quelque chose qui est transitoire, éphémère, et qui à terme va disparaître. Ça, à mon sens, c'est vraiment le plus grand tour de passe-passe, le fait d'annoncer, prophétiser la disparition du travail humain, alors que ce travail humain est partout. Et pourquoi ils annoncent constamment le bouleversement de nos catégories héritées de la civilisation salariale? Eh bien parce que tout simplement, grâce à ça, il évite de rémunérer le travail à sa juste valeur et ensuite de le protéger au sens de protection sociale.
Donc le chercheur Antonio Cassilli, on se rend compte que c'est un système qui est en place, qui est lourd, qui est pesant, et et quand on voit ce qui est en train de se passer dans la société actuelle, on se dit mais comment est-ce qu'on va réussir à se dépatouiller avec tout cela pour que ça ne fasse pas davantage de casse, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez des idées de réponse dans tout ça?
Quatre pistes. Le fait de faire savoir. Le syndicalisme, qui est une solution qui fonctionne bien, enfin qui est une réponse, le rapport de force entre des travailleurs et un employeur, ça a permis pendant une partie du 19e siècle et la totalité du 20e siècle de conquérir les acquis sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui, ce qui fait qu'on est à peu près respecté quand on est travailleur. Et puis il y a aussi la piste juridique, la réglementation de l'État et évidemment ensuite d'autres propositions le coopérativisme, le fait de réinventer une manière de faire intégralement des plateformes qui redistribue la valeur qu'elles produisent à ceux qui la produisent.
Et le plus dur, ce sera sans doute de changer les mentalités et même les usages, puisqu'on a tous ce réflexe de se ruer sur Google, de prendre telle ou telle application pour se faire livrer de la nourriture à des heures indues, parfois. Et c'est aussi ça qu'il faudra changer, que tout un chacun réfléchisse sur ce qu'il fait au quotidien, à la façon dont il utilise les applications de son smartphone. Merci beaucoup Henri Poulain, Julien Goetz, d'être venu dans l'atelier des médias de RFI. Je vous rappelle que vous qui nous écoutez pouvez candidater pour devenir un mondoblogueur ou une mondoblogueuse de RFI. C'est ouvert à tous, même aux débutants, du moment que vous trouvez quelque chose à raconter. Rendez-vous sur concours.mondoblog.org et remplissez le formulaire de candidature. C'est la fin de cette émission préparée avec Simon Decreuse qui était également à la réalisation. Camille Deloche a supervisé Mondoblog Audio. Je m'appelle Steven Jambot et je vous informe que la semaine prochaine, à la même heure la radio, ce sera exceptionnellement une rediffusion. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes celles qui précèdent dans les applications de podcast que vous appréciez. On a dernièrement parlé du lancement de la radio environnementale Gorilla FM en RDC, de la Radio Box, un prototype permettant de créer un studio de radio itinérant. On a aussi reçu le développeur principal du logiciel VLC. À bientôt pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.